La Grande Mademoiselle, une œuvre d'Arvet Barine, lue par Emmanuel Voix. Première partie, l'enfance. Chapitre 6. Les débuts de ses mémoires nous montrent la cour de Louis XIII et les affaires du temps vues par une petite fille. C'est un aspect auquel les historiens ne nous avaient pas accoutumés. Il rétrécit naturellement les horizons. La petite princesse ne savait même pas qu'il se passait quelque chose en Allemagne. Elle ne pouvait pas ignorer la lutte de Richelieu contre les grands qui causaient autour d'elle tant de changements de visage, mais elle la rapetissait dans son esprit aux proportions d'une querelle entre son père et le cardinal. Ses jugements sur les hauts personnages qu'elle fréquente lui sont dictés par des raisons purement sentimentales. Les uns y gagnent, les autres y perdent. Louis XIII est l'un des gagnants. Il était bon oncle, très affectueux avec sa nièce, à laquelle il savait un gré infini de n'être qu'une fille. Après la peur qu'il avait eue de se voir naître un héritier chez son frère, il se faisait amener mademoiselle au Louvre par la galerie du bord de l'eau et se laissait égayer par sa turbulence et par ses indiscrétions d'enfant gâté. Anne d'Autriche lui témoignait une vive tendresse. Mais les enfants ne s'y trompent guère. « Je pense, dit mademoiselle, que les amitiés qu'elle me faisait n'étaient que des effets de celles qu'elle avait pour monsieur. » Un peu plus loin, elle déclare formellement que la reine, se croyant destinée à un prochain veuvage, avait formé le dessein d'épouser monsieur. Quoi qu'il fût de ce projet, il est certain que la reine caressait la fille pour l'amour du père. Anne d'Autriche ne pardonna jamais à mademoiselle l'hiver de 1626-1627. Elle lui en voulut toujours de son propre effacement pendant les mois de grossesse où la duchesse d'Orléans promettait orgueilleusement un dauphin à la France. Monsieur, avec sa grâce et son inconscience de chat, avait tout à gagner à être vu par des yeux d'enfant. C'était un charmant camarade de jeu, gai, complaisant, et aimant sa fille, du moins pour l'instant. On ne pouvait jamais répondre du lendemain avec lui. Le cardinal de Richelieu avait tout à perdre. Il fut pour la petite princesse des Tuileries le croque-mitaine de la cour. Quand on songe que c'est ainsi, avec cette physionomie d'ogre et d'éternel trouble-fête, qu'il apparaissait aux millions de Français, incapables de comprendre sa politique, la silhouette qu'en trace mademoiselle devient dramatique dans sa profonde niaiserie. Marie de Médicis avait pu disparaître du Luxembourg et de Paris. À la suite de la journée des dupes, 11 novembre 1630, sans que sa petite fille le remarqua. J'étais encore si jeune, ou alors que je ne me souviens pas seulement de l'avoir vu, il n'en avait pas été de même du départ de monsieur, qui venait continuellement aux Tuileries. L'enfant s'en était aperçu. Elle avait compris que son père était puni, et on ne lui avait pas laissé ignorer quel était l'insolent qui mettait en pénitence même les personnes royales, au mépris de toutes les lois divines et humaines. Mademoiselle, qui n'avait pas 4 ans, fut outrée contre Richelieu. Elle lui fit de l'opposition à sa manière, et devint chère à dater de ce jour au peuple de Paris, qui a aimé de tout temps à taquiner le gouvernement. J'eus, en cette occasion-là, écrit-elle avec une certaine fierté, une conduite qui ne répondait point à mon âge. Je ne voulais me divertir à quoi que ce fût, et l'on ne pouvait même pas me faire aller aux assemblées du Louvre. Sa mauvaise humeur retombait, faute de mieux sur le roi, elle le grognait et lui réclamait son papa. Il a toujours été au-dessus des forces de mademoiselle, à tous les âges, de bouder longtemps la cour, hors de laquelle, dans sa profonde conviction, c'était aux grands êtres, en pleine solitude, malgré le nombre de leurs domestiques, et la compagnie de ceux qui les visitent. Elle se raccommoda bientôt avec les assemblées et les collations du Louvre et ne put s'empêcher d'être dans la joie de son cœur quand Leur Majesté la faisait venir à Fontainebleau. Mais elle ne désarma jamais vis-à-vis de Richelieu. Elle savait par cœur toutes les chansons contre lui. Monsieur ne prenait pourtant pas le chemin de se rendre intéressant depuis qu'il était sorti de France. Il avait commencé par une débauche de plaisir à s'en rendre malade et payer avec l'argent espagnol. En 1632, il était rentré dans son pays à la tête d'une armée étrangère et avait causé la mort du duc de Montmorency, condamné et exécuté pour rébellion. On avait appris ensuite que monsieur s'était remarié clandestinement avec une sœur du duc de Lorraine. Il couronna ses exploits en signant un traité avec l'Espagne, 12 mai 1634, dont la France devait payer les frais avec des lambeaux de son territoire. Il n'en restait pas moins pour sa fille la victime d'une persécution impie. Mademoiselle écrit en parlant de ces années regorgeantes d'événements qui la touchaient de si près, « Il se passa beaucoup de choses pendant ce temps-là. Je n'étais qu'un enfant pour lors, je n'avais part à rien et ne pouvais rien remarquer. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu la cérémonie des chevaliers de l'ordre qui furent faits à Fontainebleau, 15 mai 1633, dans laquelle aussi on dégrade de l'ordre Monsieur le duc d'Elbeuf et le marquis de la Vieuville. Je vis ôter et rompre les tableaux de leurs armes qui étaient au rang des autres. J'en demandai la raison. L'on me dit que l'on faisait cette injure parce qu'ils avaient suivi monsieur. Je me mis aussitôt à pleurer et je me sentis si touché de ce traitement que je voulus me retirer. Et je dis que je ne pouvais voir cette action avec bienséance. Le lendemain de la cérémonie, un incident qui fut très commenté ajouta au chagrin de mademoiselle. Son ennemi, le cardinal, faisait partie de la promotion des cordons bleus. Louis XIII voulut, à cette occasion, mettre son ministre hors de pair en le distinguant, et lui seul, par un présent. Son choix tomba sur l'objet du monde le plus propre à frapper une imagination enfantine. Les chevaliers du Saint-Esprit s'étaient réunis en un festin. Au dessert, on apporta à Richelieu, de la part du roi, un immense rocher de confiture, d'où sortait une fontaine d'eau parfumée. C'était un cadeau singulier, dans une circonstance solennelle et à un prince de l'Église. Il fut remarqué. Sa familiarité venait à l'appui des bruits d'après lesquels il se préparait une alliance entre la maison de France et celle du tout-puissant ministre. On disait dans le public que le mariage de Gaston avec une Lorraine ne serait jamais reconnu et que le jeune prince achetait son pardon en épousant une nièce du cardinal. Mademoiselle voyait déjà son père déshonoré. Je n'étais pas tellement occupé de mon jeu que lorsqu'on parlait de l'accommodement de monsieur. Je ne fusse bien attentive. Le cardinal de Richelieu, qui était le premier ministre et le maître des affaires, se voulait être absolument de celle-là. Et c'était avec des propositions si honteuses pour monsieur que je ne les pouvais seulement entendre sans être au désespoir. Il faisait dire que, pour faire la paix de monsieur avec le roi, il fallait rompre son mariage avec la princesse Marguerite de Lorraine et lui faire épouser mademoiselle de Combalet, nièce du cardinal, qui est aujourd'hui madame d'Aiguillon. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer dès qu'on m'en parlait et, dans ma colère, je chantais pour me venger toutes les chansons que je savais contre le cardinal et sa nièce. Monsieur ne laissa pas de s'accommoder de revenir en France sans cette ridicule condition. Je ne dirai rien de la manière dont cela se fit pour n'en avoir eu aucune connaissance. Mademoiselle n'était vraiment pas curieuse. S'il est vrai qu'elle n'a jamais su le détail des querelles de la maison de France pendant sa première jeunesse. Il n'aurait tenu qu'à elle de s'en instruire. Les correspondances et les papiers d'affaires où s'étalaient ses misères étaient dans toutes les mains, par les soins, par les ordres, du cardinal de Richelieu, qui avait deviné la puissance de la presse sur l'opinion publique, bien avant qu'il existât une presse en France. Il n'y avait pas alors de journaux pour défendre le gouvernement. Le Mercure français n'était pas un journal. Il paraissait une fois l'an et ne contenait qu'une narration succincte des choses les plus remarquables advenues dans les quatre parties du monde. La Gazette de Renaudot était à peine un journal, quoiqu'elle parut tous les 8 jours et qu'elle compta parmi ses collaborateurs Louis XIII. Pour les nouvelles militaires, Richelieu et le père Joseph pour la partie politique. Ni Renaudot ni ses protecteurs n'avaient aucune idée de ce que nous appelons un premier pari ou un article de fond. Ils n'en avaient jamais vu et ils ne surent pas les inventer. La Gazette ne fut qu'une feuille d'informations officielles, ne contenant pas la matière d'une page des débats. Il fallait pourtant parler à la France. Il fallait mettre la royauté moderne en communication avec le pays, expliquer aux foules la politique du Premier ministre, le pourquoi des guerres ou des alliances ou des échafauds. Il fallait se défendre contre les reproches de Marie de Médicis et les attaques de ce lâche Gaston. Des placards et des brochures rendirent les services qu'on demande maintenant aux journaux. Le roi s'adressa directement à son peuple et le prit à témoin de ses difficultés et de ses bonnes intentions. Il lui confia par des lettres publiques ses chagrins de famille et les motifs de sa conduite envers les puissances étrangères. Sa correspondance avec sa mère et son frère s'imprimait à mesure. Ses apologies étaient appuyées d'un choix de documents et les brochures réunies de temps à autre en volume. Ce sont les ancêtres de nos livres jaunes. J'en ai un sous les yeux, daté de 1639 et sans nom de libraire ni d'éditeur. Il a pour titre « Recueil de diverses pièces pour servir à l'histoire » et consacré pour les trois quarts au démêlé du roi avec ses proches. Mademoiselle y aurait appris beaucoup de choses dont elle n'a pas l'air de se douter. Peut-être trouvait-elle plus commode de les ignorer. Aucun des siens n'y paraît à son avantage. Louis XIII est invariablement sec et guindé. Il n'y a pas de trace d'émotion dans la lettre du 23 février 1631 où il informe les parlements et gouverneurs des provinces. Qu'ayant été mis en demeure de choisir entre sa mère et son ministre, il n'avait pas seulement hésité. Et parce qu'on avait aigri la reine, notre très honorée dame et mère, contre notre très cher et bien-aimé cousin, le cardinal de Richelieu, il n'y a instance que nous n'ayons faite prière ni supplication, que nous n'ayons employé ni considération publique et particulière, que nous n'ayons mis en avant pour adoucir son esprit, notre dit cousin, reconnaissant ce qu'il doit par toutes sortes de considérations, a fait tout ce qu'il a pu pour sa satisfaction. La révérence qu'il a pour elle l'a même portée jusqu'à ce point de nous supplier et presser, diverses fois, de trouver bon qu'il se retirât du maniement de nos affaires. Ce que l'utilité de ses services passés et l'intérêt de notre autorité ne nous a pas seulement permis de penser à lui accorder, et reconnaissant qu'aucun des auteurs de ces divisions continuer à les entretenir, nous n'avons pu éviter d'en éloigner quelques-uns de notre cour, quoiqu'avec une indicible peine de nous séparer pour quelque temps de la reine. Notre très honorée dame et mère, pendant lequel puisse son esprit s'adoucir. Une autre lettre du roi à sa mère est révoltante de dureté. Marie de Médicis lui avait adressé, après sa sortie de France, des pages très aigres où elle accusait Richelieu d'en avoir voulu à sa vie, et où elle se représentait fuyant devant les soldats de son fils. Je vous laisse à penser quelle affliction j'ai reçue, de me voir poursuivi de la cavalerie dont on me donna avis pour me presser davantage de sortir votre royaume et me contraignir à faire la valeur de 30 lieues sans boire ni manger pour me sauver de leurs mains. Avesnes, 28 juillet 1631. Au lieu d'avoir pitié de ces gémissements de vieille femme qui se sent vaincue, Louis XIII lui répliqua « Madame, je suis d'autant plus fâché de la résolution que vous avez prise de vous retirer de mon état, que vous n'en aviez point de véritable sujet. La prison imaginaire, les persécutions supposées dont vous vous plaignez et les appréhensions que vous témoignez avoir eues à Compiègne de votre vie n'ont pas plus de fondement que la poursuite que vous mettez en avant vous avoir été faite en votre retraite. » Il lui fait ensuite un éloge pompeux du cardinal et termine en ces termes « Vous me permettez, s'il vous plaît, de vous dire, madame, que l'action que vous venez de faire et ce qui s'est passé depuis quelque temps fait que je ne puis ignorer quelles ont été ci-devant vos intentions et ce que j'en dois attendre à l'avenir. Le respect que je vous porte m'empêche de vous en dire davantage. Il est certain que Marie de Médicis n'avait eu que ce qu'elle méritait. Mais ce n'était peut-être pas à son fils à le lui dire avec cette brutalité. Les lettres de Gaston sont des chefs-d'œuvre en leur genre. Elles font le plus grand honneur, au sens psychologique, de ce névrosé si intelligent. Monsieur connaissait le fort et le faible de son frère. Il le savait jaloux, ulcéré de sa propre insignifiance, en face du grand homme qui travaillait à faire d'une France languissante une France triomphante. Et il trouvait, avec un art merveilleux, les mots les plus propres à irriter ses plaies secrètes. Sa correspondance débute par des insinuations sur l'intérêt qu'avait Richelieu à les brouiller, afin de tenir plus sûrement le roi en sa dépendance. Je vous supplie, Votre Majesté, de vouloir faire réflexion sur ce qui se passe et d'examiner les desseins de ceux qui en sont auteurs. Vous trouverez, je m'assure, si vous y prenez garde, que leurs intérêts ne sont pas les vôtres, mais qu'ils sont d'autre nature et vont plus avant que vous n'avez pensé jusqu'ici. 23 mars 1631. Dans la lettre suivante, Monsieur s'adresse à la fois aux mauvais sentiments de Louis XIII et à sa conscience de souverain. Il feint de s'attendrir sur la condition déplorable de son frère, réduit, malgré ses très grandes lumières d'esprit, à n'être qu'une ombre de roi, sans autorité, sans volonté, compté pour rien dans son propre royaume, privé même de l'éclat extérieur qui s'attache ordinaire à son rang. Le cardinal de Richelieu ne lui a laissé que le nom et la figure de roi, et pour un temps, il veut, après s'être défait de vous et de moi, finalement demeurer le maître. Monsieur montre le nouveau maire du palais, régnant en fait sur la France opprimée et accablée, qu'il suce et ruine sans pitié ni vergogne. Il a consommé en son particulier plus de 200 millions depuis qu'il gouverne vos affaires et il dépense par jour 10 fois plus en sa maison que vous ne faites en la vôtre. Je vous dirai ce que j'ai vu. C'est qu'il n'y a pas un tiers de vos sujets dans la campagne qui mange du pain d'ordinaire. L'autre tiers ne vit que de pain d'avoine et l'autre tiers n'est pas seulement réduit à sa mendicité, mais languit dans une nécessité si lamentable qu'une partie meurt effectivement de faim, l'autre ne se substante que de glands, d'herbes et choses semblables comme les bêtes. Et les moins à plaindre de ceci ne mangent que du son et du sang, qu'ils ramassent dans les ruisseaux des boucheries. J'ai vu ces misères de mes yeux en divers endroits depuis mon appartement de Paris. Il disait la vérité. Le paysan en était là. Mais ce n'était pas en provoquant la guerre civile qu'on pouvait diminuer ses souffrances. Et Richelieu n'a pas manqué de faire ressortir dans la partie polémique du recueil, écrite sous sa direction, quand ce n'était pas de sa main. Il s'y défend avec bec et ongles, lui, sa politique, ses millions, ses cumuls de place. Telle lettre de monsieur a été annotée par le cardinal d'un bout à l'autre, et copieusement. De longs factums à la gloire du Premier ministre ont été inspirés par lui-même, sans fausse honte. On y rencontre des passages bien inhumains. Lorsqu'il est dit, par exemple, pour justifier le roi des mauvais traitements infligés à sa mère, que la peine des 9 mois qu'elle l'a portée lui eût été bien chèrement vendue. S'il eût fallu qu'en cette considération, il laissa mettre le feu dans son royaume. D'autres endroits sont bien hautains. On blâme les richesses du Premier ministre et, quand le roi lui en aurait donné plus, le roi est libre. N'est-ce pas chose qu'il peut, sans que l'on en puisse blâmer? D'autres encore sont cyniques d'orgueil. La production de ces grands génies fait dire Richelieu de lui-même n'est pas l'ouvrage ordinaire d'un bissexte. Il faut parfois la révolution entière de 4 siècles à la nature pour s'en former un pareil à ce tuissi, en qui se rencontrent ensemble toutes les excellences et rares qualités qui, seules à part, peuvent mettre bien au-dessus du commun ceux qui en sont pourvus. Je ne parle point seulement de celles qui sont en quelque façon de l'essence de la profession qu'il fait, comme la piété, la sagesse, la prudence, la modération, l'éloquence, l'érudition et leur pareil. Je dis des autres mômes qui semblent en être entièrement éloignés, comme celles qui composent d'un chef de guerre, etc. Parmi les pièces officielles du volume, il s'en trouve, dont la publication aurait fait rentrer sous terre, pour le reste de ses jours, tout autre que Gaston. On y voit son traité de paix de 1632, signé à Béziers, 29 septembre, après la bataille de Castelnaudary, où le duc de Montmorency avait été battu et pris sous ses yeux. Monsieur s'y engage à abandonner ses amis, à ne prendre aucun intérêt en celui de ceux qui se sont liés en lui en ces occasions, et ne prétendre pas avoir sujet de se plaindre quand le roi leur fera subir ce qu'ils méritent. Il promet d'aimer particulièrement son cousin, le cardinal de Richelieu, en récompense de ce que dessus le roi rétablit son frère en tous ses biens. On sait que le traité de Béziers ne termine à rien. Gaston avait repassé la frontière en voyant couper la tête à ses partisans. Il ne rentra définitivement qu'au mois d'octobre 1634, sur la foi d'une déclaration du roi qui clôt le recueil et par laquelle monsieur était rétabli à nouveau en la jouissance de tous ses biens, apanages, pensions et appointements. C'était pour lui l'article important. Richelieu tenait à ce que le pays n'oubliât point ces monuments de l'égoïsme et de la sécheresse de cœur de ses princes, puisqu'il prenait la peine de les faire réimprimer. Il atteignit son but. Le public eut son opinion faite avec cette conséquence qu'il ne s'intéressa plus à personne dans la famille royale, sauf toujours Anne d'Autriche, reléguée dans la pénombre. Marie de Médicis pouvait désormais crier ses fureurs. Gaston se posait en victime et Louis XIII séchait de mélancolie sans que la France s'en émût le moins du monde. Richelieu avait peut-être cru que leur impopularité lui profiterait. Ce fut tout le contraire. Il la partagea, décuplée par la terreur grandissante qu'il inspirait. Il était devenu pour chacun l'ogre, des souvenirs d'enfance de Mademoiselle. Un ogre de génie, et comme on en souhaiterait à son pays, aux heures de crise, mais portant l'épouvante avec lui. Ses premières entrevues avec Gaston, au retour du jeune prince en France, sont effroyables, l'un tellement sans défense, l'autre tellement sans pitié. Mademoiselle était allée au-devant de son père et s'était réjouie, dans son innocence, de le retrouver le même. Richelieu eut aussi l'impression que monsieur n'avait pas changé. Il tint d'autant plus à la voir dès le lendemain à son château de Reuil, sous prétexte d'une fête, et monsieur ne repartit qu'après lui avoir ouvert son cœur, comme dans l'affaire Chalet. Tourné et retourné par ce terrible homme, le malheureux dénonça mère et ami, absent et présent, ceux qui avaient comploté la chute du Premier ministre et ceux qui avaient essayé, d'après Gaston, de le faire assassiner tel jour en tel lieu. Non pas, rapporte Richelieu en ses mémoires, que monsieur conta ces choses de lui-même, mais le cardinal lui demandait s'il n'était pas vrai qu'on lui disait telle et telle chose, et il l'avouait ingénument, la fête de Reuil eut des suites funestes pour ses amis. Monsieur s'était retiré à Blois, d'où il venait souvent à Paris. À chaque voyage, il ne manquait jamais de remplir à sa façon ses devoirs de père en venant jouer et bavarder avec Mademoiselle. Il s'amusait à lui faire chanter les chansons sur Richelieu. Il organisa pour elle un ballet d'enfants auquel la cour de France assista. Il se montra à sa fille dans toute sa gloire à l'occasion d'un autre ballet dansé au Louvre le 18 février 1635 par le roi, la reine et les principaux de leur suite. Cette dernière solennité laissa toutefois à Mademoiselle des souvenirs mélangés. L'un des plus fidèles compagnons d'exil de son père, le duc de Puy-Lorenz, devait être du ballet du roi. Richelieu le fit arrêter au Louvre pendant une répétition. Il fut conduit au bois de Vincennes où il mourut prisonnier assez subitement. On donna son rôle à un autre et Gaston n'en parut pas autrement préoccupé. La Gazette apprit au public que la fête avait admirablement réussi, chacun remportant de ce lieu plein de merveilles la même idée que celle de Jacob, lequel, n'ayant vu toute la nuit que des anges, crut que c'était le lieu où le ciel joignait la terre. Il y eut cependant une personne au moins pour qui la disparition brutale depuis Lorenz avait tout gâté. Mademoiselle lui voulait du bien. Il avait gagné son cœur en lui apportant des bonbons, et elle sentait que c'était une vilaine histoire pour son père. « Je laisse, dit-elle, à des gens mieux instruits et plus éclairés que moi dans les affaires, à parler de ce que monsieur fit ensuite de la prison depuis Lorenz. » L'année suivante, elle eut un affront à dévorer pour son propre compte. Les lignes suivantes, parues dans une gazette du mois de juillet 1636, durent être insupportables à une enfant atteinte de la folie de l'orgueil. Le 17e, Mademoiselle, âgée de 9 ans et 3 mois, fut baptisée au Louvre, dans la chambre de la reine, par l'évêque d'Auxerre, premier aumônier du roi, ayant pour marraine et parrain la reine et le cardinal-duc Richelieu, et fut nommée Anne-Marie. Il est fait allusion à ce petit événement dans les mémoires de Retz. Monsieur le cardinal de Richelieu devait tenir sur les fonds Mademoiselle, qui, comme vous pouvez juger, était baptisée il y avait longtemps, mais les cérémonies du baptême avaient été différées. Ce parrain, qui n'était même pas prince, était bien humiliant. Pour comble de chagrin, il crut devoir s'occuper de sa filleule. Avec l'intention d'être aimable, il la mettait hors d'elle, parce qu'il la traitait en petite fille à 9 ans. Il me disait, tous les fois qu'il me voyait, que cette alliance spirituelle l'obligeait à prendre soin de moi, et qu'il me marierait, discours qu'il me tenait, ainsi qu'aux enfants, à qui on redit incessamment la même chose. Un voyage qu'elle fit en France, 1637, mit du baume sur ses blessures d'amour-propre. On lui chanta des Te Deum, des corps vinrent la saluer, une ville illumina la noblesse, lui offrit des fêtes. Mademoiselle nageait dans sa joie. C'était ainsi qu'elle se représentait la vie d'une personne de sa qualité. Elle finit sa journée par Blois, où monsieur, toujours bon père, voulut l'initier lui-même à la morale des princes, qui n'avait aucun rapport, en ces temps aristocratiques, avec la morale bourgeoise. Il avait pour l'instant une maîtresse sans conséquence, une jeune fille de Tours, quelconque et appelée Loison. Monsieur fit faire le voyage de Tours à sa fille pour lui présenter sa maîtresse. Mademoiselle se déclara satisfaite du choix de son père. Elle trouva Loison fort agréable de visage et de beaucoup d'esprit pour une fille de cette qualité, qui n'avait pas été à la cour. Cependant, Madame de Saint-Georges voyait ses relations d'un œil inquiet. Elle soumit ses scrupules à monsieur. Madame de Saint-Georges lui demanda si cette fille était sage, parce qu'autrement, quoiqu'elle eût l'honneur de ses bonnes grâces, elle serait bien aise qu'elle ne vînt pas chez moi. Monsieur lui en donna toute l'assurance et lui dit qu'il ne le voudrait pas lui-même sans cette condition-là. J'avais, dès ce temps-là, tant d'horreur pour le vice que je dis à Madame de Saint-Georges, « Maman, je l'appelais ainsi, si Loison n'est pas sage, quoique mon papa l'aime, je ne la veux point voir. Ou s'il veut que je la voie, je ne lui ferai pas bon accueil. » Elle me répondit qu'elle l'était tout à fait, dont je fus très aise. Elle me plaisait fort, ainsi je la vis souvent. Mademoiselle ne s'était pas doutée du comique de ce passage. Elle ne l'aurait pas écrit, n'étant point de ceux qui admettent qu'il soit quelquefois permis de sourire des grands. Au retour de ce voyage, elle reprit son train accoutumé. Je passai l'hiver à Paris de la même sorte que j'avais fait les autres. J'allais aux assemblées que Madame la Comtesse de Soissons faisait faire à l'hôtel de Brissac, deux fois la semaine. Leur divertissement ordinaire était les comédies. J'aimais fort à danser. L'on y dansa souvent pour l'amour de moi. Il y avait aussi des assemblées, avec comédie, chez la reine, chez Richelieu, chez nombre de personnages, et mademoiselle recevait elle-même aux Tuileries. La nuit du 23 au 24 janvier 1636, rapporte la Gazette, mademoiselle donna en son logement des Tuileries le bal et la comédie à la reine, où la bonne grâce de cette princesse, en son Orient, montra ce qu'il en faut espérer en son midi. Le 24 février, monsieur donna la comédie et la collation à S.A. de Parme chez mademoiselle, sa fille, en son appartement des Tuileries. Mademoiselle passait les jours et les nuits dans les fêtes. Les études n'en souffraient pas, puisqu'elle n'apprit jamais rien, hormis lire et écrire, danser, faire la révérence et observer les règles d'une étiquette minutieuse. Le peu qu'elle sut, elle le dut probablement à une retraite forcée de plusieurs mois dans un couvent, vers 9 ans. Elle s'était rendue si intolérable à tout le monde, c'est elle qui le dit, par ses grimaces et ses moqueries, qu'on essaya d'un cloître pour la discipliner et la corriger. Le moyen réussit. L'on m'en avait vu revenir, plus sage que je n'avais été, plus sage et un peu moins ignorante, mais pas beaucoup. Le billet suivant, qui date de sa maturité, montrera mieux que tout le discours du monde de quoi se contentait le XVIIe siècle, en fait d'instruction et pour une princesse. Mademoiselle écrivait à Colbert, à Choisy, ce 5 août 1665, « Monsieur le Sieur Segré, qui est de l'Académie et qui a beaucoup travaillé pour la gloire du roi et pour le public, ayant est l'oublié l'année passée dans les gratifications que le roi affecte aux beaux esprits, m'a pris de vous faire parvenir de lui cet un aussi homme de mérite et qui est à moi il y a long tams. J'espère que cela ne nuira pas à vous obliger à avoir de la considération pour lui, c'est ce que je vous demande, et de me croire monsieur Colbert et cetera. Cette orthographe n'empêcha point mademoiselle de figurer sous le nom de princesse Cassandane dans le grand dictionnaire des précieuses. Elle avait tous les droits, d'après la distinction établie par Scudéry, entre la vraie précieuse et la savante, et comme maintes de ses contemporaines, qui serait aussi la honte de la plus humble de nos écoles primaires. La vraie précieuse, celle qui laissait aux savantes le grec et les comètes, s'appliquait à percer les mystères du cœur. C'était sa science, qui en valait bien une autre. La grande mademoiselle s'y était adonnée dans des limites qu'elle-même s'était tracées. Elle s'était fait une spécialité du cœur des princesses et des sentiments qui leur conviennent. Elle prétendait avoir établi de façon définitive comment les personnes de sa qualité se doivent à elles-mêmes de comprendre l'amour et la gloire. Les sources où elle avait puisé ses idées ne lui étaient point particulières. C'était celle où tous les honnêtes gens des deux sexes venaient compléter l'éducation sentimentale commencée par la vie. Arvet Barine.